grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Vous faites peut-être partie des 10 millions de Français qui souffrent de migraines, une pathologie aux origines mal connues et qui altère la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Nous verrons s'il est possible d'en finir avec cette onde de douleurs chroniques, ce handicap invisible. Mais qu'est-ce qui déclenche une migraine? Comment bien reconnaître une migraine et ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées? Quelles sont les principales étapes d'une crise? Dans quelle mesure les médicaments de la migraine sont-ils efficaces? Quels sont les nouveaux traitements prometteurs? Quel est l'impact psychologique des douleurs liées à la migraine? Nous évoquerons également ce matin les autres maux de tête comme les céphalées en grappe. Pour nous éclairer ce matin, le neurologue Michel Lanthéry-Minet, le médecin généraliste Sauveur Boucris et Sébastien Boller, le directeur du mensuel Cerveau et Psycho, notre complice ce matin. Si vous souffrez de migraine ou de céphalées, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Avec nous également, bien évidemment, Marie-Laure Zonshein de Femmes Actuelles. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
J'espère que vos choses vues ce matin ne me donneront pas la migraine. Vous nous direz notamment si la méditation de pleine conscience peut aider à atténuer les douleurs migraineuses.
Absolument, on parlera donc de migraines, de marteau-piqueur également, et on réfléchira à la différence entre douleur et souffrance et aux moyens de leur faire face, justement.
À tout à l'heure Christophe André, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Pour répondre à toutes vos questions sur la migraine, trois invités. Bonjour docteur Michel Lanthéry-Minet.
Bonjour.
Vous êtes, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît, vous êtes neurologue, chef du département de la douleur au CHU de Nice, vous êtes responsable d'une consultation spécialisée dans la prise en charge des migraines et vous êtes le co-auteur du livre Les céphalées en 30 leçons chez Elsevier Masson. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes directeur du mensuel Cerveau et Psycho. À la une ce mois-ci, en finir avec la migraine, les promesses des nouveaux traitements. Bonjour docteur Sauveur Boucris.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste dans un quartier populaire au nord de Paris et vous recevez bien sur de nombreux patients atteints de céphalées et de migraines. Alors, docteur Lanthéry-Minet, qu'est-ce qu'une migraine? L'étymologie du mot migraine est issue du grec. Alfred de Vigny définissait la migraine de la façon suivante. 5 diablotins blottis dans l'angle du sourcil, suspendus à l'extrémité d'une scie pour qu'elle s'enfonce plus avant dans la tête. Quelle est la définition médicale de la migraine?
Alors, la définition médicale de la migraine est une céphalée primaire, c'est-à-dire c'est une maladie en elle-même qui n'est pas provoquée par autre chose et qui est définie comme une maladie car elle a des caractéristiques cliniques très particulières et des mécanismes sous-jacents très particuliers. Alors, en termes de caractéristiques, la migraine dans les formes les plus habituelles s'exprime par crise et non pas par une céphalée continue et au cours des crises qui peuvent durer de 4 heures, le plus souvent 48, 72 heures, le sujet présente une céphalée, c'est un mal à tête très particulier, qui est le plus souvent unilatéral, qui affecte un seul côté de la tête, qui a une tonalité pulsatile, c'est-à-dire que le patient ressent le cœur qui bat dans la tête, qui est d'intensité modérée à sévère, mais modérée au sens anglo-saxon, ça veut dire que c'est déjà élevé par rapport à la connotation francophone de l'épithète modéré et aggravé par les efforts physiques de routine comme simplement monter des escaliers qui augmentent l'intensité douloureuse. En plus de la céphalée, il y a d'autres signes, avec notamment deux grands signes qui sont pratiquement toujours présents, c'est l'hyperesthésie sensorielle avec une grande gêne à la lumière et au bruit, et une composante digestive avec très fréquemment des nausées, voire des vomissements, qui sont encore un des facteurs de gravité en termes de qualité de vie de la crise de migraine.
Alors il s'agit d'une maladie neurologique assez complexe.
Oui, c'est une maladie neurologique, puisque en fait n'importe qui peut faire une crise de migraine dans un environnement un petit peu défavorable, mais il y a des sujets qui répètent les crises, ce qui définit la maladie migraineuse, c'est la répétition des crises. Et la répétition des crises repose sur une sensibilité des neurones génétiquement inscrite, qui fait que sous l'effet de facteurs déclenchants, identifiés ou parfois non identifiés par le patient, le cerveau envoie de mauvaises informations aux vaisseaux du cerveau, et les vaisseaux sont le siège de deux phénomènes, d'une inflammation et d'une dilatation. Et ce qui fait mal, c'est cette association d'inflammation et de dilatation.
Alors, il existe 197 types de céphalées selon la classification internationale des céphalées. C'est quoi exactement une céphalée ?
Alors, une céphalée, c'est tout simplement un mal de tête. Hein, c'est la définition médicale du mal à la tête. Et en fait, quand on parle de céphalée, on distingue des céphalées secondaires qui sont provoquées par autre chose, où là, la céphalée est un symptôme. Et ça peut aller de la céphalée de la grippe à la céphalée de l'hémorragie cérébrale, ce qui explique les 187 types de maux de tête que vous citez. Et puis, il y a des céphalées maladies, que l'on appelle des céphalées primaires. Et dans céphalées maladies, la plus fréquente, celle qu'on voit le plus souvent en consultation, c'est la migraine.
La céphalée de tension, c'est sans doute le mot de tête le plus répandu. C'est celle qu'on peut ressentir, éprouver après une journée de travail, par exemple.
Oui, la céphalée de tension, notamment épisodique peu fréquente, elle est présente chez tout le monde. Nous, on cherche souvent des patients qui ne l'ont jamais connue parce que ces patients-là ont sûrement un gène de protection des céphalées, donc ils nous intéressent.
Est-ce que les céphalées de tension peuvent se transformer en migraine à terme ?
Non. Par contre, un sujet migraineux peut aussi avoir des céphalées de tension, ce qui complique un petit peu à la fois le diagnostic et la prise en charge.
Docteur Sauveur Boukris, dans votre cabinet, beaucoup de patients consultent pour des migraines ?
Absolument. Hein. Et je crois que tout ça a été bien dit, bien décrit. J'ajouterais deux choses. C'est que c'est une affection qui touche plus particulièrement les femmes. Hein, à plus de 80%, ce sont des femmes qui très tôt, des moments de l'adolescence ou dès l'âge de 20 ans, qui constatent qu'elles ont un état migraineux à certains moments de leur cycle, par exemple au moment des règles ou un ou deux jours avant l'apparition des règles, elles commencent à avoir la migraine, que comme le disait le docteur Lanteris, c'est quelque chose qui est la moitié du crâne, c'est comme des coups de marteau. Ça s'accompagne de nausées ou de vomissements et c'est très handicapant. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup. On en voit plusieurs par semaine, quoi. Voilà. Mmh. Ça touche quand même beaucoup des femmes et ça a aussi des facteurs provoquants. Lorsque l'on mange, par exemple, davantage de chocolat, les personnes nous disent bah, :« J'ai déclenché une migraine. »
Alors
lorsque
c'est pas prouvé, ça, docteur Michel Lanteris.
Non, pas du tout. C'est même infirmé.
Oui,
c'est même infirmé.
C'est ce que les. Alors nous, quand on leur pose la question clinique, est-ce que vous avez fait un repas abondant ? On dit oui, j'ai bu du vin blanc en particulier, mais pas le vin rouge. Voilà. Alors est-ce que c'est purement subjectif ?
Mais sur le chocolat, prenons le cas du chocolat. Est-ce que il n'y a pas un effet nocebo, docteur Michel Lanteri ? Le fait de se dire que si je mange du chocolat, ça risque de provoquer une migraine et que voilà.
Le chocolat, c'est une fausse représentation mentale des patients, c'est-à-dire que on a pris des études anglaises assez élégantes, un petit peu dures à faire chez nous sur le plan éthique, où ils ont pris des sujets qui alléguaient des déclenchements au chocolat, ils leur ont mis une sonde gastrique, bandé les yeux et donc injecté des solutés alimentaires, dont des solutés chocolatées. Donc les patients n'ont pas la capacité de reconnaître le goût, l'odeur, et ces patients-là n'ont pas déclenché. Et en fait, l'hypothèse, c'est que les patients, quand ils consomment du chocolat, sont en phase de ce qu'on appelle prodromique. La migraine commence, il y a une prise du chocolat qui est imposée par une activité cérébrale anormale, notamment au niveau des régions hypothalamiques. Ça ne suffit pas à arrêter la crise et le patient pense avoir déclenché sa crise à cause du chocolat.
Sébastien Boller.
Non, c'est mieux, c'est que ce qu'on prend pour la cause est en réalité l'effet. Ça me fait penser à ce que vous me disiez sur les facteurs déclenchants. Souvent, suite à un stress, par contre, des émotions vives, c'est ça, ou par décompensation après un moment de tension, on se relâche pendant le week-end, c'est la migraine du.
En fait, quand on reprend tous les facteurs déclenchants de la migraine, le dénominateur commun, c'est le changement d'état, un changement émotionnel, négatif ou positif, une grande joie qui peut déclencher une crise, une variation du volume de sommeil, une date de sommeil quand il y a une grasse matinée, une variation de l'activité physique, professionnelle, un surmenage, au contraire le relâchement, la fameuse migraine du week-end. Et c'est toute la problématique de la migraine, parce que nos vies ne sont faites que de changements d'état. Les non-migraineux passent au travers, et les migraineux, ils passent pas au travers, parce qu'ils déclenchent quasi systématiquement des crises lors des changements d'état.
Le risque après, c'est de faire attention à plus avoir d'émotions, à tout surveiller,
et
tout
le grand
lisser,
risque, c'est d'induire des conduits d'évitement, où le patient, interprétant sa vie, faisant des fausses représentations, et se ratatinant un peu sur lui-même, et emportant tout l'entourage, les enfants, le conjoint. En termes de proximologie, la migraine impacte aussi beaucoup.
Avec cette peur des prophéties auto-réalisatrices, Marie-Laure Zonshine.
Oui, concernant les causes, ou en tout cas tout ce qui dans le périmètre de nos habitudes de vie peut agir, est-ce que l'utilisation des écrans, excessive ou pas d'ailleurs, impacte?
Non, pour l'instant, on n'a pas de données scientifiques robustes permettant d'accuser. Alors, les deux grands éléments qui reviennent souvent en consultation, c'est le téléphone portable, et pour l'instant, les études n'affirment pas la relation, et les écrans, sachant qu'actuellement, il y a quand même un petit peu quelques études sur des spectres lumineux un petit peu délétères, notamment, bon, ça a été très à la mode, les lumières bleues, qui pourraient quand même un peu impacter sur les régions hypothalamiques, qui sont une région importante du déclenchement de la crise de migraine.
Allez, si vous êtes atteint de migraine, n'hésitez pas à nous contacter, à nous raconter votre quotidien si vous êtes proche d'un migraineux. 01 45 24 7000. Vous pouvez également utiliser l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter.
J.J. Kell interprétait cocaïne.
Je ne prends pas de champagne. Je déteste le caviar. Le champagne, alors, ça me donne mal à la tête.
Grand bien vous fasse.
Prenez un peu d'aspirine.
Sur France Inter.
10h20 et nous attendons ce matin toutes vos questions sur la migraine et sur les autres maux de tête au 01 45 24 7000. Pour vous répondre, le neurologue Michel Lanthéry-Minet, le médecin généraliste Sauveur Boucris et Sébastien Boller, directeur du mensuel Cerveau et Psycho.
Je vis avec un homme couché, cloué au lit par la douleur, allongé dans son fauteuil avant et après la migraine par des fatigues écrasantes, et quelqu'un qui est présent-absent dans cette maison. Il faut attendre que la migraine passe, il faut faire du silence, et ça fait quand même 8 ans que ça dure. Pour les enfants, je pense que c'est difficile aussi d'avoir un papa couché. Lorsqu'il attrape cette migraine, lorsqu'il est mal, son visage gonfle, il porte une espèce de masque et il ne communique plus. Nous, on aimait bien le rire, on aimait bien les copains, on avait fait table ouverte. Et puis, cette migraine nous a coupé des amis qui n'ont pas compris ce qui se passait.
Extrait du documentaire « Si dur la douleur », Michel Lanthéry-Minet, la migraine, on l'entend, est une maladie invalidante, un handicap invisible qui affecte la qualité de vie.
Oui, très très invalidant. L'exemple qui est donné par cette dame en parlant de son époux, c'est vraiment caractéristique, avec un handicap pendant la crise elle-même, mais une phase initiale, ce qu'on appelle prodromique, une phase postdromique après, où le sujet ne revient pas systématiquement à la normale. Et quand ça se répète beaucoup trop, la qualité de vie est très altérée, il y a du retentissement émotionnel avec des éléments dépressifs qui s'installent. Et l'exemple était vraiment très parlant sur l'impact sur la cellule familiale. Elle parle des enfants, de leur vie relationnelle. Voilà, c'est vraiment un très beau tableau de la migraine. Et là, chez un homme, puisque la migraine touche aussi les hommes et pas uniquement les femmes.
Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, la migraine est l'une des 5 maladies les plus invalidantes au niveau sociétal. Bonjour Delphine, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous êtes atteinte d'une migraine. Vous tenez le blog Les Tribulations d'une migraineuse. Vous avez créé ce blog car vous en aviez assez de ne pas être comprise.
Comme on l'a entendu, effectivement, on plaint souvent les conjoints de migraineux, donc c'est un petit peu la double peine pour nous, parce qu'en plus on culpabilise, à plus d'avoir mal. Et puis, il y a surtout cette... ce qui m'énervait, c'était surtout la notion, il est migraineux, il doit être dépressif. Et moi, j'ai fait en sorte, justement, d'avoir une vie familiale et un travail, etc., au prix de... Vraiment, j'ai dégradé ma santé pour ça. Et la migraine, on le choisit pas, quoi. C'est pas quelque chose de psychologique. C'est vraiment quelque chose que j'entends régulièrement et qui m'énerve beaucoup.
Et votre migraine a eu un très grand impact sur votre vie professionnelle, pendant vos études et même dans votre couple.
À tous les niveaux. Alors c'est vrai que moi j'ai 2 parents migraineux, donc j'ai voilà, donc je suis très migraineuse et ça a commencé comme vous l'avez dit, comme je l'ai entendu, à l'adolescence. Et par exemple, au travail, je travaillais à mi-temps, je m'arrangeais pour travailler un jour sur deux parce que entre 2 jours de travail, c'était un jour de migraine, je savais qu'il me fallait un jour pour me remettre du travail, quoi. Et pour les amis, pareil, hein, les sorties qu'on annule, après on n'ose plus nous inviter. Pour le couple, alors là, c'est beaucoup plus subtil, c'est sur les années, parce qu'au début, c'est le conjoint est conciliant, puis au bout d'un moment, il en a marre parce que il y a des soirs où on peut pas sortir . Et puis en tant que maman aussi, c'est culpabilisant quand on a une migraine et puis que notre enfant. On lui dit tu joues tout seul, tu attends.
Pouvez-vous me décrire les douleurs que vous subissez, Delphine?
Moi c'est toujours unilatéral. Quand ça commence, je sais tout de suite si ça va être une forte migraine ou un simple mal de tête, parce que j'ai les deux. Et quand c'est une migraine, c'est principe sur 2-3 jours, avec le premier jour d'un côté, le deuxième jour quand je me réveille, ça passe, c'est passé de l'autre côté. Avec un peu de chance, ça s'arrête au bout de 2 jours, et puis des fois ça dure 3 jours. Et c'est comme si on n'avait plus de cerveau, on n'est plus capable de réfléchir. Je cherche mes mots, on est au ralenti. Comme on l'a entendu, le moindre bruit, la moindre lumière est insupportable. Et ça, c'est difficile à faire comprendre, ça.
Michel Lanthéry-Minet, sur ce témoignage.
C'est typiquement là ce qu'on appelle une migraine sans aura, très typique dans les formes sévères, avec ses durées de 48-72 heures. Et ça, vous imaginez bien, quand ça se répète de manière récurrente, c'est l'enfer pour les patients.
C'est quoi une migraine sans aura, une migraine avec aura?
Alors, la migraine sans aura, c'est une crise qui s'accompagne pas de signes neurologiques. La migraine avec aura, c'est une crise qui est précédée de signes neurologiques, avec à peu près une heure avant l'apparition de signes visuels, dans un émichamp visuel, dans une seule partie du champ visuel, avec comme des lignes fortifiées, scintillantes. Dans la littérature francophone, on appelle ça les fortifications de Vauban. Les anglo-saxons le reprennent pas, bien évidemment. Et après, ça peut aller jusqu'à des phénomènes sans avec des sensations de fourmis, des gourdissements du visage, de la main, et ce qu'avait peut-être l'auditrice qui décrivait, un manque d'humour, une difficulté à parler.
Sébastien Boller.
Les migraines avec Aura sont, c'est un modèle d'étude très passionnant en fait, parce que au début ça a été pris comme un moyen même d'accéder aux mécanismes fondamentaux de la perception visuelle. Il y a des chercheurs qui ont dessiné même les perturbations du champ visuel qu'ils observaient, avec un trou qui apparaît parfois, une tache qu'on appelle un scotome. D'un seul coup, il y a une tache aveugle dans le champ visuel. Et ces recherches ont débouché sur l'observation de ce qu'on appelle une onde corticale. C'est en fait une onde de dépolarisation des neurones. Et on voit comme ça ce phénomène neuronal qui se propage de l'arrière du cerveau vers l'avant du cerveau, tout doucement. Genre 2 ou 3 millimètres par minute, et qui suit les contours, les replis du cerveau, les fameux les circonvolutions. Et à mesure que ça s'écoule dans les circonvolutions du cerveau, ça donne ces déformations du champ visuel. Donc c'était vraiment un volet perceptif de son propre cerveau, mais c'est évidemment très déstabilisant quand on le vit.
Delphine, est-ce que vous avez été entendue par le corps médical, par votre médecin généraliste? Est-ce que votre douleur, votre plainte, votre handicap social a été entendue?
Alors maintenant, oui, il y a eu vraiment un progrès à ce niveau-là, parce que bon, j'ai 50 ans, ça fait 40 ans que j'ai des migraines, et j'ai vraiment vu l'évolution. Quand j'avais 17 ans, la première fois que j'ai eu un traitement depuis 13 ans, mais à 17 ans, je me rappelle très bien qu'un médecin m'a dit « Vous inquiétez pas, à la ménopause, vous n'aurez plus de migraines ». Bon, j'avais 17 ans, alors je me suis dit « Bon, chouette, encore plus que 30 ans à avoir mal ». Et j'ai eu plein de réflexions de médecins, on ressort, on est déprimé. Par contre, depuis une dizaine d'années, ça a vraiment changé. Et oui, j'ai trouvé un bon généraliste, un bon neurologue, et oui, ça a vraiment changé.
Docteur Sauveur-Boucry, généraliste.
Oui, écoutez, je pense qu'un médecin digne de ce nom doit prendre au sérieux, la crise migraineuse ou l'état migraineux de ses patients. Moi, je voudrais dire 2 choses. Premièrement, c'est que la migraine avec Laura, l'exemple typique, c'est Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, où il s'est servi un petit peu de sa crise pour décrire ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. Alors, pour la migraine dans la vie quotidienne, ce qui est le plus important, c'est que la crise commence en général le matin. C'est-à-dire que la femme ou l'homme se réveille en se disant, oh là là, je commence à avoir mal à la tête, on se tient l'œil, on se dit que je ne supporte plus la lumière, je commence à avoir des nausées. Et c'est pour ça que ça handicape dans la vie quotidienne. Et les femmes se disent, mais faut que je prépare le petit déjeuner pour mes enfants, faut que j'aille au travail. Et bien souvent, elles peuvent pas le faire. Elles viennent en consultation tôt le matin pour demander un traitement quand c'est la première fois. Et quand elles ont dans l'habitude de faire, elles ont le traitement que le médecin généraliste leur a dit, voilà, vous avez un traitement en cas de crise, voilà ce qu'il faut prendre. Et en général, les traitements sont relativement efficaces pour le traitement de la crise.
On reviendra sur les traitements tout à l'heure. Christophe André, vous vouliez réagir au témoignage de Delphine?
Oui, ce témoignage, effectivement, illustre le problème que rencontrent les patients migraineux. C'est-à-dire, c'est une maladie invisible. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de leur crâne. Effectivement, on n'a pas toujours la neuroimagerie dont parlait Sébastien Boller. C'est ultra douloureux, moi, pour avoir accompagné quelques patients migraineux. Alors, si on pouvait avoir une machine qui fasse ressentir aux non-migraineux ce que ressentent les migraineux, ça serait très intéressant pour conduire un peu plus d'empathie. Et c'est perçu comme une maladie pas grave au sens médical, c'est-à-dire il n'y a pas de séquelles, on n'en meurt pas, 3 jours après, les gens vont de nouveau bien. Et c'est très compliqué à la fois à comprendre pour l'entourage et à porter pour les patients. Deuxième point par rapport à ce que disait Delphine, elle disait ça m'agace qu'on attribue à la migraine des causes psychologiques. Il y en a pourtant, c'est vrai que le stress fait partie des causes psychologiques, mais à ce compte-là, ça ne veut pas dire une cause psychologique ne signifie pas que les migraineux soient plus névrosés que la moyenne, c'est juste que le stress les affecte, mais dans leur cas, ça déclenche des crises de migraine. Et ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de cause psychiatrique, alors disons à la migraine, qu'il n'y a pas de solution, par contre, psychologique. Ce n'est pas parce qu'on peut améliorer peut-être l'évolution de sa migraine par des techniques psychologiques qu'elle est d'origine psychologique. C'est une maladie neurologique.
Delphine clairement. Nous disait que ses parents étaient migraineux. Quelle est la composante génétique héréditaire de la migraine, docteur Michel Lanthéry?
Alors la composante génétique est très très importante, mais dans les formes de migraines que l'on voit habituellement en consultation, nous sommes dans des formes polygéniques qui dépendent de plusieurs gènes, et donc dans toutes ces maladies polygéniques, il n'y a pas forcément d'hérédité, parce qu'il peut y avoir des sauts de génération. Hein, si vous êtes migraineux avec 5 gènes de prédisposition, vous allez en transmettre que 2, vos enfants ne seront pas migraineux. Mais ils transportent des gènes, et à la génération suivante, ça peut réapparaître. Et après, il y a un autre élément de la migraine, c'est que c'est une maladie génétique au départ, mais avec une influence très importante de l'environnement. Et l'intérêt dans la migraine, c'est la compréhension de cette interface entre génétique et environnement.
Delphine, restez avec nous. Allez-y, pardon.
Il y a un type de migraine, si je me souviens bien, qui dépend d'un gène précis, non?
Tout à fait. Alors, oui. Il y a une forme de migraine avec aura, c'est la migraine hémiplégique familiale, où on a des familles où dans chaque génération, il y a un sujet qui est porteur de ces migraines avec aura sévère hémiplégique, où là, chaque famille dépend d'un seul gène, c'est des transmissions monogéniques, et pour nous, c'est des modèles d'étude de la migraine. Mais on n'a pas ces gènes dans la migraine plus habituelle qu'on voit en consultation tous les jours.
Delphine, restez avec nous. Nous accueillons Sophie. Bienvenue, Sophie.
Bonjour.
Alors, vous souffrez de migraines depuis l'âge de 13 ans, c'est ça?
Oui, voilà. Comme vous avez expliqué, donc à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des migraines. Mm-hmm. Mais on ne savait pas que c'était des migraines parce que j'avais l'aura qui se déclenchait en premier. Et je n'avais pas d'aura ophtalmique, mais en fait c'était plus un engourdissement des lèvres, des bras, je perdais la parole, je commençais une phrase et puis j'arrivais pas à la finir, et j'étais tout à fait consciente. Donc en fait ce que je faisais c'était me coucher, j'avais tellement peur, je me disais bon, en me couchant, en dormant, ça va certainement passer. Et puis quand j'avais une vingtaine d'années, on a posé le diagnostic. Et on m'a dit, ce sont des migraines avec aura, mais plutôt inhabituelles, puisque voilà, je n'arrive plus soudainement à m'orienter. Mm-hmm. En fait, je sens bien avant que la douleur se déclenche, que mon corps n'est pas dans un état normal. Et donc, on avait posé un autre diagnostic, c'était que je pouvais faire une sclérose en plaques. Ou bien, il y a quelques années, j'ai eu les migraines qui se sont déclenchées sur mon lieu de travail. Et comme je me suis complètement affalée parce que je pouvais plus parler, je pouvais plus bouger, ils pensaient que je faisais un AVC. Mmh. Donc, il a fallu appeler mon médecin traitant qui a rassuré en me disant « Non, non, vous inquiétez pas, elle fait des migraines avec aura ». Donc, c'est juste une migraine.
Tiens, le témoignage de Sophie est intéressant parce que beaucoup de migraineux ont parfois peur d'avoir un AVC, un accident vasculaire cérébral. Est-ce que ça peut être lié? Est-ce qu'une très très forte migraine peut débouger sur un AVC?
Non. La migraine en tant que telle, notamment sans aura, ne déclenche pas d'AVC. Par contre, les patientes jeunes qui ont des migraines avec aura ont un risque d'accident vasculaire cérébral ischémique un peu plus important, notamment si elles ont des cofacteurs, si elles fument et si elles ont une contraception orale un peu trop dosée en estrogène. Donc là, on a une bonne population de prévention primaire, et donc on travaille beaucoup en consultation avec ces jeunes filles qui ont des migraines avec aura pour essayer de leur faire arrêter de fumer si elles ont commencé et trouver éventuellement un autre mode de contraception qu'une pilule très dosée en estrogène.
Sophie, comment vous traitez ces migraines avec aura?
Alors, pendant quelques années, j'ai essayé plusieurs médicaments qui ne marchaient pas. À un moment donné, j'en prenais un. En fait, c'était comme si j'étais foutée. Ça me mettait dans un état second. Donc je prends que de l'ibuprofène. Mm-hmm. Mais c'est tellement en fait douloureux. J'entendais un des intervenants qui disait que c'était extrêmement douloureux. Et quand je me couche, que j'essaie de gérer l'aura au mieux, parce que j'ai aussi des enfants, et quand ils m'ont vu la première fois dans cet état-là, ils étaient très inquiets. Mais pendant que j'essaie de dormir, en fait, il y a la douleur qui me réveille. Mmh. Donc je ne prends que des ibuprofènes, et puis en fait c'est vraiment l'aura, les différents types d'aura en fait que je peux cumuler quand la migraine va se déclencher, qui sont extrêmement handicapants. Ça m'est arrivé au travail, ça m'est arrivé en roulant. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu flippant, on va dire.
Je vous comprends, Sophie. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de notre ami Christophe André.
Alors, parmi les grands enjeux de toute vie humaine, il y a la traversée de la souffrance. Au fond, vivre n'est pas toujours un truc très gai. Vivre, c'est naître, souffrir et puis mourir. Ici-bas, la douleur à la douleur s'enchaîne. Le jour succède au jour et la peine à la peine, nous explique joyeusement Lamartine dans ses méditations. Bon, heureusement qu'entre les moments de douleur, il y a aussi les moments de bonheur et de bien-être qui rendent l'ensemble supportable. Mais savoir affronter et traverser les inévitables souffrances de toute vie humaine reste un enjeu important. Dans ce domaine, notre marge de manœuvre est limitée mais réelle. Pour cela, on fait souvent par exemple une distinction pédagogique entre douleur et souffrance. La douleur, c'est l'ensemble des phénomènes physiques ou matériels à l'origine de nos maux. C'est le réel qui nous fait mal. Une blessure ou un dysfonctionnement de notre corps, une maladie, un deuil, un divorce, une adversité concrète. Nous n'inventons alors rien. Les sources de la douleur sont bien là, en nous et autour de nous. Souvent, nous ne pouvons pas grand-chose sur la douleur. En tout cas, nous pouvons rarement la supprimer comme ça d'un coup. La souffrance, c'est l'impact sur nous de la douleur. C'est la place qu'elle prend dans notre tête, dans notre vie. La souffrance, finalement, c'est ce que notre esprit fait de la douleur. Dans la migraine, par exemple, notre sujet du jour, quand la douleur démarre, ça commence parfois comme un marteau-piqueur qui se met à cogner dans notre tête. Ça tape, et puis on commence à s'inquiéter, on commence à se dire « Non, non, mais c'est pas possible, ça recommence, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir ?» Bon, alors avant de repartir sur mon discours psychologique, je voudrais rappeler une vérité médicale simple. Quand la douleur est violente, douleur physique ou douleur morale, les médicaments sont les bienvenus. Que l'on soit migraineux ou cancéreux, rhumatisant ou agonisant, il est toujours légitime de soulager la douleur. Mais les médicaments ne sont pas la seule et unique réponse possible. C'est pourquoi la réflexion sur l'art et la manière d'affronter la douleur en limitant nos souffrances a toujours préoccupé les humains. Choisir la bonne attitude pour traverser les souffrances est ainsi un des fondements du bouddhisme. Savoir leur trouver un sens est un de ceux du christianisme. Et la psychologie s'attache, elle aussi, de son mieux, à aider les patients à ne pas se laisser dominer et à servir par leurs souffrances. Dans la méditation, par exemple, de nombreux exercices sont destinés à nous entraîner à ne pas laisser toute notre attention se focaliser et se rétracter sur la seule douleur et à entraîner notre esprit à ne pas se laisser embarquer par toutes les pensées et toutes les émotions à propos de la douleur. Toutes les études le confirment. L'apprentissage de la méditation aide à mieux souffrir lorsque les douleurs arrivent. Mieux souffrir, c'est-à-dire limiter de notre mieux l'envahissement, l'omniprésence et la dictature de la souffrance. C'est ce que rappelle la philosophe Simone Weil, ne pas chercher à ne pas souffrir mais à ne pas être altéré par la souffrance. Bon, je sais, ce n'est pas facile et rien de plus irritant que les professeurs de douleur qui nous invitent à relativiser parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est pas seul dans ce cas, etc. Vous connaissez la formule assassine de La Rochefoucauld, on a toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui. On aimerait bien les voir alors, ces bons conseilleurs, prendre notre place et notre souffrance et nous faire une petite démonstration de leur savoir-faire. Face à la douleur, chacun et chacune fait ce qu'il peut comme il peut. Mais chacun fait aussi ce qu'il a appris à faire, d'où l'importance de proposer des approches psychologiques de nature à aider nos patients à moins souffrir, en les laissant libres de se tourner ou non vers ces dernières. Et vous, chère Ali, quand vous avez très, très, très mal à la tête, c'est médicament ou méditation ?
C'est assez rare. J'essaie de faire en sorte que ça passe, en fait. J'évite les médicaments.
Méditation.
Oui, si vous voulez. Enfin, je vais marcher un bon coup et voilà. Bon, en tout cas, je n'ai jamais eu de migraine et vu le tableau clinique qui est, présenté ce matin, parfois, on peut se plaindre de migraines de façon un peu légère et souvent, il s'agit évidemment de céphalées de tension assez passagères. Sébastien Boller, vous vouliez réagir?
Oui, sur la différence entre douleur et souffrance, ça me fait penser justement à une étude que j'avais lue qui montrait que chez les grands méditants, au moment de vivre une douleur, même expérimentalement dans un laboratoire, le moment de perception de la douleur est plus aigu même que chez une personne qui n'est pas habituée à méditer, mais qu'une fois qu'elle s'est arrêtée, ça s'arrête, et qu'en amont, il n'y a pas non plus d'anticipation de la douleur qui va venir, ce qui fait que souvent la douleur se transforme en souffrance et qu'elle envahit notre quotidien, c'est qu'on se dit « quand est-ce que ça va revenir ?» Et c'est comme si la méditation apprenait finalement à éviter que la douleur physique contamine le champ psychique sur toute la durée, et c'est en tout cas ce qui ressortait de cette étude d'imagerie cérébrale.
Absolument, oui, oui. Puis on a d'autres études montrant que les zones du cerveau, du cortex cérébral dédiées au traitement de la douleur sont plus développées chez les méditants, oui. plus fonctionnelles. Donc, ça peut être une piste intéressante parmi d'autres. Mais c'est important de rappeler quand même que les médicaments, quand on est en pleine crise de migraine, c'est tout de même la bouée pour ne pas sombrer.
Justement, nous verrons dans quelques instants quels sont les traitements de référence pour traiter la migraine. Les choses vues de Christophe André à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Même Vous Fasse. Allez, appelez-nous au 01 45 24
Fini les 8-6, fini la fumette. C'est fini les bêtises, les clubs de striptease. Les femelles, la lunette. La migraine au réveil, j'ai la coupe d'un Bee Gees. Une haleine de fenêtre. Chez moi, ça sent la vieille, ça fait au moins 10 piges. Que j'ouvre plus les fenêtres. Je prends la vie comme un jeu. Mon ami, c'est comme un jeu. Sur ma vie, je prends la vie, prends la vie comme un jeu. Mon ami, je kiffe ma vie, donc j'écris sur ma vie. Je kiffe ma vie, donc j'écris sur ma vie. On m'appelle pas, on m'harcèle. Fais ça, fais si faut pas réfléchir, ça rend fou ma mère. Faut que je me bouge, mais là j'ai trop la fleur. J'hésite entre la zik ou la play. Comme un jeu sur ma vie.
De chez Bouygues Télécom, c'est un secret pour les fouines et les connes. Je calcule pas les tweets et les coms. J'ai laissé ça comme la weed et l'école. Au réveil, je me demande quoi mettre. J'oublie que la vie a un goût amer. Cherche celle qui va mettre le sucre. J'aime pas ma vie, j'écris quand même dessus. Je fais ça encore salement. J'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches. Les mêmes qui empochent, y'a trop d'embûches. Voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus, c'est comme un parachute qui s'accroche mal. La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars. Chaussures turquoise, je porte mes costumes qu'une fois. Devine, je le jure sur quoi.
Sur ma vie, comme un jeu. Ils diront tout ce que je suis leur pote si je perds. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de faire. Pour les miens, je vise le baisse. Ils diront tout ce que je suis leur pote si je perds. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire.
Némir et Alpha One interprétés sur ma vie.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
11h moins le quart et nous attendons toutes vos questions sur la migraine au 01 45 24 7000.
Mais qu'est-ce que la migraine ? Nous croyons tous la connaître. Et pourtant, les origines de cette maladie complexe sont encore bien mystérieuses. Cette douleur pulsatile peut durer jusqu'à 3 jours. Elle s'accompagne souvent de nausées et d'une intolérance au bruit et à la lumière. On ne sait pas ce qui provoque la migraine, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle est liée à l'inflammation de certains nerfs et à la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau du crâne.
Extrait de Futur Mag sur Arte. Docteur Michel Lanthéry-Minet, je rappelle que vous êtes neurologue. Est-ce que l'aspirine, le paracétamol, l'ibuprofène soignent efficacement une migraine ? En cas de crise, quels sont les traitements à disposition du malade ?
Alors, en cas de crise, le paracétamol est le plus souvent insuffisant. Les anti-inflammatoires comme l'aspirine ou l'ibuprofène peuvent être efficaces et il y a certains patients qui répondent très bien à ces médicaments. Et puis, il y a une autre grande classe, hein, ce sont des produits qui luttent contre cette fameuse vasodilatation. Ce sont des produits qui sont vasoconstricteurs et
les
ce
triptans.
Sont les triptans, voilà, hein, qui ont un petit peu révolutionné, il y a une vingtaine d'années, la prise en charge de la crise de migraine.
Et quels sont les traitements préventifs ?
Alors, en traitement préventif, pour l'instant, on n'est plus que limité parce qu'on n'a pas de traitement spécifiquement antimigraineux. Ce sont que des traitements détournés. Globalement, certains antihypertenseurs, certains antidépresseurs, certains antiépileptiques. Et ce sont des traitements qui n'ont pas une magnitude d'effet extraordinaire et surtout qui ont énormément d'effets indésirables, faisant que souvent le bénéfice est largement compensé par les effets indésirables, faisant que les patients arrêtent le traitement.
Alors Delphine, vous êtes toujours avec nous, vous êtes migraineuse, vous êtes notre témoin fil rouge. Vous attendez beaucoup des nouveaux traitements, les anticorps
Bah moi j'ai tout essayé, antiépileptiques, etc. Effectivement, il y en avait un qui marchait, mais les effets secondaires c'était pas tenable. Et justement, je voulais demander au docteur Lanteri, parce qu'il y a un nouveau traitement qui doit sortir et tous les migraineux attendent ça avec impatience, qui a une piqûre à se faire une fois par mois d'anticorps. Et en fait, ça éviterait même le début de la crise. Donc, est-ce que le médecin peut nous dire qu'est-ce qu'il en est, quand est-ce qu'il va sortir ?
Les anticorps monoclonaux.
Alors effectivement, il y a des produits qu'on appelle les anticorps monoclonaux anti-CGRP. Ce sont des anticorps qui bloquent une petite protéine dans le cerveau qui s'appelle le CGRP et qui est le lien entre l'inflammation du système nerveux et la dilatation des vaisseaux. Donc plusieurs laboratoires se sont mis là-dessus avec globalement des produits qui s'administrent de la même façon pour tous, hein, une injection mensuelle. Donc c'est des produits qu'on a eu en étude qui manifestement marchent, que ça soit dans la migraine épisodique ou dans la migraine chronique, qui sont très très bien tolérés. Hein, vraiment, on n'a pas la kyrielle de signes d'effets secondaires, prise de poids, effets sédatifs. Alors, les produits sont autorisés, ils ont eu leur autorisation de mise sur le marché européenne et aux USA. Ils sont déjà sur le marché américain depuis pratiquement un an. En Europe, c'est plus lent à cause de la procédure de remboursement, parce que ce sont des produits qui ont été commercialisés à des prix très élevés, puisque selon la posologie, on est entre 600 et 1400 euros l'injection mensuelle. Donc pour nos systèmes de santé, c'est vraiment très lourd. Et donc les autorités, notamment en France, vont les limiter probablement à des patients un peu réfractaires qui sont au moins en échec de deux traitements de fond et qui seront peut-être à au moins 8 jours de migraine par mois. C'est en cours de discussion.
Question de Marie-Laure Zonshine.
Oui, pour le docteur Boukris, est-ce que dans vos cabinets, vous avez, en discutant avec vos patients et patientes, la possibilité d'envisager avec eux une nouvelle façon d'une alimentation différente, une hygiène de vie autre, faire du sport, du yoga, Christophe André parlait de méditation, de relaxation. Est-ce que tout ça peut jouer au long cours, à défaut de réduire les crises, peut-être de les espacer ou de les éviter ?
Absolument. Alors, lorsqu'une personne migraineuse ou qui dit être migraineuse vient nous consulter, on est, nous, dans une situation un peu d'urgence, un peu comme le pompier qui doit éteindre le feu. Donc, on doit faire le diagnostic et puis proposer un traitement de façon à ce que dans les 24-48 heures, la personne ne souffre plus de son mal de tête qui est, comme on l'a dit, très handicapant. Donc, on propose un traitement efficace, et c'est vrai que les triptans, c'est souvent, ou les anti-inflammatoires, ça résout bien la crise. Et puis, après, on leur dit, écoutez, on va essayer de vous proposer un traitement de fond. Alors après, tout dépend du nombre de crises. Il y en a qui font une crise par mois, d'autres qui font une crise par semaine, d'autres plus... Tout dépend du nombre de crises, de l'intensité de la crise et de la gêne que ça provoque dans la vie quotidienne. C'est le traitement. Alors, on dit parfois, dès que vous commencez à sentir la crise, vous pouvez prendre ce traitement pour éviter l'intensité de la crise. Et puis, dans un troisième temps, c'est justement l'hygiène de vie. Essayer un petit peu de se détendre, de se relaxer. Alors, pour ceux qui ont la possibilité, c'est de faire éventuellement des séances de méditation, mais le sport est recommandé, les
séances
de yoga.
Mais c'est toujours en complément avec les médicaments.
Toujours en complément. Ça peut pas être, à mon avis, en première intention.
Toujours en complément. Et il y a de très belles études qui ont montré que ce qui est le plus efficace, c'est l'association du traitement pharmacologique et de ses approches non pharmacologiques, quel que soit le vecteur de l'approche non pharmacologique.
Quel est le rôle du sport, de l'activité physique pour prévenir les crises de migraine?
Alors, elle peut être très bonne, sauf dans un cas, c'est les patients qui ont des déclenchements de crise à l'effort. Ça, on a chassé certains sportifs de haut niveau. Ça, c'est vraiment très, très difficile parce que le sport, il faut quasiment traiter préventivement avant la mise en situation d'effort physique.
Est-ce que certains aliments peuvent véritablement provoquer des migraines chez certains sujets? On a vu tout à l'heure que c'était une idée reçue, une fausse idée reçue, le fait que le chocolat puisse déclencher des migraines. Est-ce que, à contrario, il y a des aliments?
Alors, l'aliment, si tant est qu'on le considère comme un aliment principal qui déclenche, c'est l'alcool.
L'alcool. Voilà, l'alcool. Quel est le mécanisme d'ailleurs?
Alors, il y a deux mécanismes. Il y a le fait que l'alcool est quand même vasodilatateur. Et donc ça provoque un peu le phénomène de la crise. Et puis, notamment dans certains vins, il y a des produits dans les tanins de vin qui passent la barrière hémato-méningée, hein, c'est-à-dire ce qui permet de protéger notre cerveau, et qui ont la capacité de stimuler le cerveau. Ce qui explique ce que tu disais tout à l'heure, les sensibilités très variables selon les vins, blancs, rouges, les appellations, chez certains sujets. Des sujets qui craignent un vin, une appellation, et qui peuvent boire à côté sans problème un autre alcool.
Delphine, quels sont les facteurs déclencheur de migraines chez vous?
Oula, vous avez une demi-heure devant vous?
Non, on n'a pas une demi-heure, hélas.
Alors l'alcool, oui, moi ça fait 30 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Le moindre alcool, ça c'est déclencheur. Bon, c'est pas un problème, hein, on n'en boit pas et puis voilà. La fumée de cigarette, des autres, ça peut être un peu plus gênant. Mm-hmm. Les lumières au néon, par exemple, donc c'est mon conjoint qui fait les courses parce que moi je supporte pas les lumières au néon et je vous jure, c'est pas une excuse. Mm-hmm. Les repas. Alors, on parlait d'alimentation. Alors, moi, je fais très attention à manger à heure fixe. C'est, si j'ai une heure de retard sur un repas, je suis en hypoglycémie et là, ça peut être déclencheur.
Michel Antéry.
Oui, c'est typiquement la problématique de la variation, hein, le danger de la variation pour les migraineux, hein, ce que vous citez pour vos prises alimentaires, quoi.
Christophe André.
Moi, j'avais une question. C'est désolé, c'est un peu bêta peut-être, mais la migraine, évidemment, c'est une maladie à cliché. Tout le monde a un avis, donc il y a tout un tas de blagues, par exemple.
Je vois venir.
Chérie, ben, ce soir, j'ai la migraine. Bon, c'est stupide, mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est juste, est-ce que on peut déclencher des crises de migraine? Vous parliez des crises liées au changement d'état lors d'un rapport sexuel.
Après. Ou lors, pourquoi pas?
Oui, pendant ou après.
Ce ne sont pas des migraines, cela. Alors, le rapport migraine-activité sexuelle, quand on est sur une crise de migraine, il est difficile d'avoir un rapport sexuel parce qu'on est quand même dans un état plutôt pitoyable, sauf quelques patients qui probablement l'utilisent comme une approche non pharmacologique, avec un lever d'attention, détente. Hein, ça, quand la crise n'est pas trop sévère, ça peut fonctionner. Par contre, il y a des sujets qui viennent consulter avec ce qu'on appelle, nous, des céphalées sexuelles. Et la principale céphalée sexuelle, c'est la céphalée orgasmique. C'est-à-dire au cours de l'orgasme, en plein orgasme, l'impression que la tête explose. Et ça, lors du premier épisode, l'inquiétude, c'est une hémorragie cérébrale. Généralement, les patients vont aux urgences. On fait les examens, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas d'anévrisme. Et puis ça se répète après dans le temps et ça devient très invalidant parce que les sujets refusent l'activité sexuelle parce que c'est tellement anxiogène quand ça survient. Et ça survient autant chez l'homme que chez la femme. Simplement, les hommes consultent plus facilement pour ça, percevant que c'est anormal. Souvent, les femmes s'est intégrées dans la cellule de couple. Ah ben, t'es pas bien, t'es un petit peu altérée émotionnellement, c'est pour ça que, voilà. Hein, il faut un peu de temps pour que les femmes consultent pour ça.
Frangie nous demande, peut-on avoir une définition de la migraine ophtalmique?
Alors, la migraine ophtalmique est souvent citée par les patients pour des migraines simplement qui affectent topographiquement la région orbitaire d'un seul côté. Mais pour nous, la vraie migraine ophtalmique, c'était l'ancien nom francophone de la migraine avec aura visuelle, avec des signes visuels.
Bonjour Emmanuel, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, votre fille de 14 ans est atteinte de migraine depuis quelque temps, c'est ça?
Oui, c'est ça, a priori. Donc, les symptômes sont arrivés au mois de juin, où elle a commencé à me dire qu'elle avait mal à la tête. Et bon, je pensais que ça allait passer. Et finalement, elle avait mal tous les jours, en fait, de façon importante. Donc, on a consulté, on est allé voir un neurologue. Donc, a priori, effectivement, ce sont des migraines. Et donc, le neurologue a prescrit un antidépresseur, donc du Laroxyl, à très faible dose, puisque j'ai cru comprendre donc que c'était un traitement qui pouvait être prescrit dans le cas de migraine. Donc elle a, en fait, on a essayé un mois cet été, au mois d'août. Donc elle prend 5 gouttes, enfin elle prenait 5 gouttes de Laroxyl par jour, ce qui a fait complètement disparaître ses maux de tête. Hein. La seule, en fait, enfin, la seule question que je me pose, alors à partir de la rentrée scolaire, elle a arrêté en fait la prise de Laroxyl. Bon, les migraines ont réapparu. Hein. Ce qui nous gêne, c'est le fait qu'elle ait à prendre effectivement ce traitement tous les jours. Voilà, c'est pas quelque chose qu'elle prend quand elle a mal, mais c'est qu'elle...
Emmanuel, vous voulez savoir s'il existe des traitements à ne prendre que lors des crises, hein, c'est bien ça?
Bah, c'est ça en fait. Et est-ce que finalement il y a un souci pour elle si elle prend du Laroxil comme ça pendant des années parce que ça la soulage ou pas?
Michel Lanthéry.
Alors déjà probablement elle n'aura pas à le prendre pendant des années. Hein, mais c'est sûr que le traitement qui vous a été proposé a été probablement un petit peu court pendant l'été. Généralement, le minimum de durée pour essayer de stabiliser le terrain migraineux, c'est 6 mois. Et en l'occurrence, là, même si ça vous inquiète un petit peu, le Laroxil passe à un antidépresseur, ce qui est normal en tant que parent, la dose qui a été prescrite à votre enfant est vraiment minime et vous ne prenez aucun risque et vous pouvez lui faire faire l'année scolaire avec ce traitement. Et puis, à la fin de cette année scolaire, peut-être essayer d'arrêter, profiter de l'été, voir si après, elle peut se passer du traitement parce qu'elle est en pleine phase de mutation physiologique là à 14 ans et il peut y avoir une poussée migraineuse d'une année et puis après, ça peut rentrer dans l'ordre spontanément.
Jess nous dit « Migraineuse depuis l'âge de 8 ans, je souhaitais juste dire à quel point il est important d'écouter attentivement les enfants qui se plaignent car les symptômes d'une migraine ne peuvent pas être inventés. » Merci beaucoup Emmanuel. Delphine, on a encore une petite poignée de minutes. Quels sont vos conseils aux migraineux?
Oula, alors vous voulez dire des petits conseils de tous les jours?
Des petits conseils de tous les jours, rapidement, oui, merci.
Oui, par exemple, moi je prends un café et quand je prends un cachet, ça va beaucoup plus vite.
Michel Lanthéry acquiesce.
Il existe des bandeaux de gel froid aussi à se mettre sur le front. Mm-hmm. Alors, ça c'est très bien. Mon fils l'utilise régulièrement parce qu'il est aussi migraineux. Mm-hmm. Le yoga, le tai chi, j'en ai fait, c'est vraiment efficace, mm-hmm. C'est pas mal, comme on l'a dit aussi. Pensez aussi, quand on est fatigué, à les vitamines, le fer. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais beaucoup plus de migraines et j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'étais en manque de fer. Demandez à son compagnon de faire un petit massage, c'est très bien, ça relâche.
Docteur Michel Lanthéry, un dernier conseil pour nos auditeurs ce matin.
Le conseil, parlez de vos migraines. Parlez. On peut vous aider. On guérit pas de la migraine, mais on peut vous permettre d'avoir une qualité de vie la plus normale possible.
Et il y a des clubs de migraineux avec des blogs où on peut dialoguer et conseils entre migraineux sont aussi bons que certains médecins.
Et on peut citer le blog de Delphine, Les Tribulations d'une migraineuse. Merci à tous. Merci Michel Lanthéry Minet. Merci Sauveur Boucris. Merci Sébastien Boller. Je recommande l'excellent numéro de Cerveau et Psycho consacré à la migraine, actuellement disponible en kiosque.
Merci.
Merci Marie-Laure Zonchan et Christophe André, bien évidemment. Demain, nous verrons comment bien préparer les enfants à la maternelle avec le neurologue et éthologue Boris Cyrulnik. Comment être heureux à l'école maternelle de la petite à la grande section 01 45 24 7000 demain dès 9h.